Ce qui est peut-être le plus significatif, c'est de suivre la démarche d'Élisée, de son frère, de la famille. Et je ne vous lirai finalement que les premières pages de cette œuvre gigantesque et les dernières. Élie et Élisée, donc, plus que deux frères biologiques, c'était aussi deux frères spirituels. Et c'est deux frères qui, pour chacun, avaient un amour immense, qui n'ont pas pu se séparer et qui se sont aidés toute leur vie, qui ont suivi le même itinéraire. Donc, je vais donc commencer par cet itinéraire en vous présentant l'homme et son frère, et à travers cela, l'homme et ses frères d'ailleurs, puisque les frères au sens humain du terme, et ensuite, comment de la terre on retrouve l'homme et comment l'homme retourne à la terre, parce que Élisée Reclus a tourné toute sa vie autour de ces mots, la terre, l'homme, le frère, les frères humains. La famille Reclus était à Sainte-Foy-la-Grande, enfin c'est le berceau originel de la famille. Les parents Reclus, Jacques Reclus et sa femme Zéline, le père Jacques Reclus était un pasteur protestant, extrêmement convaincu, extrêmement austère et d'une grande exigence morale. Et je crois que c'est ce qu'il a transmis justement à ses autres enfants. Et cette famille a eu évidemment une destinée d'autant plus étonnante que je crois qu'ils avaient, les parents avaient su tisser des liens avec les enfants, remarquables d'éducation morale, d'éducation religieuse, d'éducation intellectuelle. Et ils avaient eu aussi une très nombreuse famille, ce qui était aussi toute une vision, même si à l'époque on avait de très nombreuses familles, puisqu'ils ont eu 13 enfants. C'est pour cela que tous ayant eu un destin particulier, enfin pratiquement tous, on retrouve des Reclus partout, et qu'à l'heure actuelle il doit y avoir des centaines de descendants des Reclus, même si pour le seul Élisée, il y en avait dans les années 60, quand l'historien américain a écrit son livre, il y en avait à peu près une quarantaine de vivants, rien que d'Élisée. Mais des lits, il doit y avoir tout autant. Et comme ils étaient 13, calculez vous-même ce que ça peut faire. Et quand Guillaume m'a dit qu'il connaissait une petite fille d'Élisée Reclus qui pourrait peut-être venir ce soir, quand je me suis aperçue qu'effectivement des petites filles, il y a bien des chances effectivement d'en avoir un certain nombre, ce qui m'intéressait c'était de savoir une petite fille, oui, mais de quelle branche de la famille. Très rapidement, je vous dis le nom des frères et sœurs, parce que je crois que c'est intéressant, on les retrouve. L'aînée Suzy qui est morte rapidement, ensuite Élie et Élisée qui se suivaient, ensuite Loïs, Marie, Louise, qui est devenue Louise Duménil, qui avait épousé le gendre de Michelet, ce gendre étant devenu veuf, bien sûr. Il y a Onésime, bien connu, et dont on a un livre dans la bibliothèque. Il y a Zéline, il y a Noémie, il y a Armand, qui a exploré lui aussi toute la Terre, et notamment l'Amérique centrale, après avoir été lieutenant de vaisseau, avoir eu quelques ennuis politiques, et qui a participé aux travaux de recherche sur la percée du canal de Panama. Il y a Johanna, il y a Paul Reclus, le dernier des frères, qui était un chirurgien très célèbre, qui a écrit de nombreux traités de thérapeutique, et qui a d'ailleurs laissé un nom dans le monde médical, puisqu'il y a une maladie qui s'appelle maladie de Paul Reclus. Et enfin, Anna, la dernière, qui est morte dans les années 1850. Élisée Reclus est née en 1830, il est mort en 1905 à l'âge de 75 ans. Donc, voyez-vous, il a parcouru tout le siècle et est mort à l'aube du XXe siècle. La destinée de la famille fut bouleversée, justement à cause du caractère de Jacques Reclus, le père, car il avait été très séduit par l'enseignement d'une secte. Je ne suis pas protestante, donc c'est un peu assez difficile d'avoir compris ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je sais qu'il y avait des dissensions entre protestants et qu'il avait été disciple d'un pasteur particulièrement exigeant qui l'a incité à mener une vie beaucoup plus austère que celle qu'il menait et à ne pas dépendre comme cela de la notoriété, car il était très notable dans son à Sainte-Foy-la-Grande, mais au contraire de suivre l'enseignement le plus rigoureux, d'être le plus fraternel possible avec les hommes, de donner tout, et finalement de pratiquer à la lettre l'esprit de charité tel que une secte protestante l'a pratiqué, ce qui l'a amené un beau jour à démissionner pour des raisons purement morales, et ce qui a beaucoup étonné tous les gens, car il était très connu, il pratiquait, enfin il était un notable qui faisait de l'enseignement à Sainte-Foy-la-Grande, et sa famille était très aisée, et du soir au matin, il s'est retrouvé dans la pauvreté, partant de Sainte-Foy-la-Grande, qui est en Gironde, pour aller à Orthez, qui est dans les Basses-Pyrénées, pas très loin, mais vraiment, je dirais que c'était assez patelin par rapport à Sainte-Foy-la-Grande, qui était quand même près de Bordeaux et qui était un lieu plus intéressant intellectuellement. Toute la famille, donc, s'est mise à vivre dans des conditions assez difficiles, et cette décision du pasteur, qui, comme dit à un moment donné Élisée Reclus, « Mon père était un homme qui a eu la fantaisie de suivre sa conscience. » Et je crois que c'est ce qu'il a ensuite transmis à tous ses enfants. Effectivement, c'était pour des raisons de conscience qu'il est parti. C'est aussi pour des raisons morales qu'il a envoyé, à un moment donné, ses deux fils, Élie et Élisée, suivre un enseignement en Allemagne, qui était l'enseignement des frères Moraves, autre secte que je ne connais pas malheureusement, mais enfin je crois qu'il y avait des préceptes assez rigides et qui avaient suivi un itinéraire particulier intellectuellement et spirituellement. Et les deux frères se sont retrouvés, adolescents, dans un contexte étranger, à Neuwied, chez les frères Moraves. C'est ce qui, je pense, a été le début à la fois de leur véritable fraternité, de leur véritable amitié, car ils étaient là, deux petits Français, dans un milieu complètement étranger, où il y avait d'ailleurs plutôt des élèves hollandais et anglais que des élèves allemands, car c'était un milieu assez particulier de parents qui envoyaient leurs enfants là pour des raisons spirituelles. Et ils se sont retrouvés aussi en butte aux persécutions de leurs petits camarades, car n'oublions pas qu'à cette époque, l'époque napoléonienne était encore très proche, et les jeux favoris de leurs petits camarades consistaient à jouer à Waterloo et à leur taper dessus en les humiliant au maximum. Ce qui, à la fois, a endurci leur caractère, leur a permis de prendre un peu de distance et de se rendre compte que les êtres humains ne sont pas si faciles que cela. Après cette période de formation en Allemagne, où finalement ils étaient supposés apprendre de la théologie tous les deux, mais où ils ont appris plutôt les langues, d'ailleurs dans un temps remarquable, puisqu'on peut s'apercevoir d'après cela qu'en l'espace de 2 ans et demi maximum, ces deux frères ont appris l'anglais, le hollandais, l'allemand, même s'ils ont perfectionné tout ça plus tard, toutes ces recherches ont été aussi le résultat d'une très grande connaissance des langues. Et moi, je me suis posé la question de savoir quel type d'enseignement on pratiquait à cette époque et comment était possible que de garçons de cet âge-là apprennent si vite des langues, même s'ils étaient complètement sortis de leur milieu. Mais enfin, c'est intéressant de voir le type, la capacité qu'ils ont eue d'engranger des tas de connaissances et de devenir déjà, de posséder les outils qui allaient leur permettre plus tard une très grande évolution sur tous les plans. Ils sont revenus à Sainte-Foy-la-Grande, où il y avait un collège protestant célèbre, et tous les deux ont préparé le baccalauréat, qui à cette époque était évidemment un diplôme qui avait une valeur considérable, et ils ont passé leur baccalauréat. C'est à ce moment-là que pour Élisée Reclus, d'une certaine façon, la période de formation s'arrête, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du tout un universitaire, ce n'est pas quelqu'un de bardé de diplôme. C'est d'une certaine façon un autodidacte qui a eu une grande capacité à se former lui-même, à s'enrichir, à profiter de toutes les occasions de la vie pour devenir ce qu'il est devenu. Son frère Élie, de son côté, continuait à se destiner à devenir, à devenir pasteur et donc à continuer ses études de théologie à la faculté de Montauban. Tous les deux, ils sont d'ailleurs été à Montauban un certain temps. Et là, c'était l'année 1849, et c'était une année évidemment extrêmement importante pour quiconque s'intéressait un peu au monde extérieur, notamment aux nouvelles de Paris, et tous les deux étaient très 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 séduits par tous les bruits qui arrivaient de Paris. Ils étaient très sensibles au courant social de l'époque, et c'est ce qui leur a valu leurs premiers ennuis, car ils ont rapidement passé pour des marginaux, pas vraiment encore pour des agitateurs, mais enfin, les frères Reclus étaient à Montauban regardés d'un œil un peu particulier, d'autant plus qu'il leur avait pris la fantaisie tout d'un coup d'aller voir la mer, et alors qu'ils auraient dû demander la permission, enfin je ne sais pas comment ça se passait à cette époque, mais un beau jour ils sont partis, à pied d'ailleurs, et ils sont arrivés à Montpellier, et ils ont vu la mer pour la première fois de leur vie, et Élisée était si émue qu'il a étreint son frère et l'a mordu jusqu'au sang, l'épaule en disant « la mer, la mer ». Enfin, c'est Je vous cite cette anecdote parce que c'est montrer à quel point la nature était quelque chose qui était pour lui un véritable choc émotionnel et en même temps quelque chose de très très important. À leur retour de cette escapade non permise par les règlements, on les a remerciés poliment et on les a carrément expulsés de la faculté de Montauban. À ce moment-là, ils se sont séparés et Élisée est partie, est revenue en Allemagne pour devenir répétiteur, pour gagner sa vie. Et Élie, son frère, est allé à Genève continuer ses études de théologie. Donc, on se rend compte qu'Élisée Reclus, à 20 ans, était un garçon autonome qui, déjà, avait le souci de gagner sa vie. Il est évident qu'il faisait partie d'une famille excessivement nombreuse et qui avait arrêté et interrompu ses études, ce qui, d'ailleurs, le rendait assez malheureux, raison pour laquelle, au bout de 2 ans, il a décidé quand même d'essayer d'aller reprendre quelques études et il a été conseillé par les frères Moraves qui lui ont dit d'aller à Berlin. Il est allé à Berlin, mais contrairement à ce qu'on pense, à Berlin, il n'est pas passé un temps très long à Berlin, il a passé à peu près 6 mois. Et on lui avait envoyé d'ailleurs pour qu'il continue des études de théologie, mais dans une lettre qu'il écrit à ses parents, il déclare que la théologie est totalement nulle à Berlin et que le plus intéressant, c'est encore les cours d'histoire, de sociologie et de géographie. Mais enfin, il n'a pas suivi à ce moment-là spécialement, semble-t-il, des cours de géographie, même s'il y avait le grand géographe allemand Karl Ritter, qui était enseignant à l'université. Il ne semble pas du tout que de là soit née cette vocation particulière à la géographie, ni cette formation, ni ce lien avec un milieu. Les deux frères ensuite se sont retrouvés, et ce qui est intéressant encore une fois, c'est de s'apercevoir que, entre autres choses, ils ont fait, c'était l'année 1851, un voyage carrément initiatique, et se sont retrouvés à Strasbourg. Ils n'avaient pas d'argent pour revenir chez leurs parents, et ils ont carrément traversé la France à pied, tous les deux, tout en écrivant d'ailleurs que c'était très normal que tous les citoyens voyageaient à l'époque de cette façon, qu'on en voit partout, de Nice à Brest, qui parcourent la France à pied, et qu'eux, ils vont le faire. Mais enfin, je pense que ça a été pour eux quelque chose qui faisait partie de leur formation, qui faisait partie de la grande fraternité qui a commencé à les unir, qui faisait partie de leur itinéraire, finalement, spirituel. Et ils sont arrivés au bout de 21 jours à Orthez. Et là, ils ont commencé à se poser des problèmes sur leur devenir, sur leur avenir en France. Et toujours très sensibles aux mouvements sociaux, ils ont été totalement consternés le jour où ils ont appris la nouvelle du coup d'État. Et là, ils ont pensé qu'il était absolument impossible qu'à Orthez, il ne puisse pas y avoir des gens qui réagissent comme eux et qui n'allaient pas essayer comme eux de faire quelque chose, de ne pas rester passif. Et ils ont décidé de faire, pas un petit coup, mais enfin ils se sont dit, on va occuper l'hôtel de ville. Puis ils ont pensé que les gens les suivraient et ils se sont retrouvés pratiquement tous les deux seuls à occuper l'hôtel de ville d'Orthez, les pauvres. Alors ça n'est pas passé inaperçu non plus à Orthez. Et très rapidement, on a fait savoir à leurs parents qu'il vaudrait quand même mieux que ils se calment, ou ils quittent la ville. Et d'ailleurs, ils étaient totalement écœurés, totalement meurtris. Pour eux, c'était le deuil de la République. Et ils ont décidé qu'ils quittaient la France. Et ils se sont exilés tous les deux en Angleterre. Donc, on les retrouve en 1852 en Angleterre. Là commence une période très très difficile. Des deux frères en Angleterre qui donnent des leçons de français, qui se trouvent malgré tout en concurrence avec tous les exilés français qu'il y avait en Angleterre à l'époque, qui se trouvent aussi face à la morgue des Anglais. Enfin, ils en parlent beaucoup. Mais enfin, qui se soutiennent beaucoup, qui lient des liens de plus en plus forts et qui essaient de survivre à cette époque pendant 4-5 ans. Puis ensuite, ils vont se séparer et Élisée va décider de partir en Amérique, cependant que son frère décide de rentrer en France parce qu'à ce moment-là, il y avait des conditions politiques un peu plus favorables et qui lui permettaient d'envisager de rentrer en France. Et alors là, c'est le premier voyage donc d'Élisée Reclus, qui traverse dans des conditions extraordinairement difficiles, comme cuisinier d'ailleurs. Il s'engage sur un bateau et il arrive à la Nouvelle-Orléans. Il était jeune, enfin il avait 24 ans, 25 ans. À la Nouvelle-Orléans, il survit en portant des sacs de sel, enfin en faisant un peu le docker, jusqu'à ce qu'il trouve une famille qui lui permette de devenir précepteur. Mais là, il va découvrir aussi tout un monde dont qu'il prend en grippe très rapidement, qui le choque horriblement. C'est le monde de l'esclavage en Amérique du... Enfin, là, dans l'Amérique de la Caroline, de la Géorgie, à la Nouvelle-Orléans. Et il est extrêmement choqué par cela. Et il écrit à son frère que finalement, il a une telle horreur pour l'esclavage, l'église et la chevalerie créole, que tout cela l'engage à décamper au plus vite. Il ne se supporte plus. Mais il avait commencé à prendre beaucoup de notes déjà. Son esprit s'était mis systématiquement à l'œuvre. Et il s'en va en Nouvelle-Grenade, dans l'espoir de trouver un terrain, de fonder une exploitation agricole, une sorte, au fond, de rêve de Cécilia, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, le rêve communautaire qui avait eu lieu au Brésil, je crois, à Cécilia, et qui le pousse à essayer à tout prix de faire venir son frère Élie en Nouvelle-Grenade, et là, de fonder la grande communauté, la grande fratrie, où ils pourraient exploiter la terre et vivre tous en famille, partager leurs biens, partager avec les paysans tout ce qu'ils avaient. Mais là, il est allé d'échec en échec. Il est même très surprenant qu'il ait si bien survécu, parce qu'il y a une lettre où on le voit excessivement malade. Je pense qu'il a dû avoir pendant quelque chose comme la malaria, et qu'il s'est retrouvé sans soins, par terre, sur la terre battue, avec des insectes, sans médicaments, dans des conditions absolument affreuses. Il a pourtant survécu, et puis il s'est aperçu que c'était un échec, que tout cela ne marchait pas. Mais il avait pris déjà beaucoup de notes, il avait conçu un goût certain pour l'étude du terrain. Et il est revenu en France pour s'installer en 1857 à Paris, avec son frère Élie. Alors Élie Élisée commence là, à Paris, à mener une vie dans une sorte de phalanstère, le phalanstère reclus. Ils étaient tous les deux mariés, enfin Élie s'était déjà marié depuis un certain temps. Quant à Élisée, il s'est marié avec une jeune fille qui s'appelait Clarisse Briand, qui était de Sainte-Foy-la-Grande, et qu'il faut le noter parce que c'est important, était une métisse sénégalaise. Et pour lui, il était très très important d'épouser comme ça une métisse et de proclamer sa très grande conviction qu'il fallait abolir les différences entre les races. Et c'était un geste à la fois d'amour, parce que je crois qu'elle était très belle, et politique, parce qu'il voulait bien prouver que lui était capable de faire ça. Mais ce qu'il a fait encore, qui était plus étonnant, et qui a compliqué un peu ses affaires matrimoniales, c'est qu'il a, il était obligé de persuader la famille, car c'était quand même une bonne famille de Sainte-Foy-la-Grande, qu'il fallait absolument qu'il l'épouse sans sanction juridique, c'est-à-dire pas à la mairie et pas à l'église. Il voulait absolument que ça soit fait dans le salon de sa famille et qu'il se déclare uni par les liens du mariage. Bon, ça a été assez difficile à faire accepter à la famille. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle l'a accepté, et qu'à cette époque, quand même, malgré tout, c'était assez difficile de trouver des gens peu conventionnels de cette manière, ils sont arrivés à se marier comme cela, aux yeux des êtres humains, et pas aux yeux ni de la religion, ni de la loi. Il est important d'essayer de se pénétrer de l'atmosphère qui régnait à ce moment-là à Paris, qui était évidemment très agitée par différents mouvements, par différentes associations. Bon, c'est le Paris, de toute façon, de la création de la bibliothèque. Et les deux frères tenaient un salon qui était tous les lundis, chez eux. Ils habitaient rue des Feuillantines, qui était la rue Claude Bernard. Et là, ils fréquentaient de nombreux mouvements, des mouvements socialistes. Ils étaient en contact avec Proudhon, avec Blanqui, avec un certain nombre de socialistes de l'époque. Mais il faut remarquer une chose par rapport à la querelle qu'on leur a faite, qui était une querelle qui a bien arrangé plus tard, à la fin du siècle, tous les gouvernementaux qui leur faisaient. Ce n'étaient pas du tout des anarchistes, terroristes, poseurs de bombes, pas du tout violents. C'était vraiment, ça partait chez eux d'une grande exigence morale, d'un grand besoin de bonté, d'un grand besoin de liberté. C'est pour ça que je voudrais vous lire quelque chose que, dès 1851, quand il avait à peine 20 ans, Élisée avait écrit, et qui n'a été découvert que plus tard, dans un petit opuscule qu'il avait intitulé « Développement de la liberté dans le monde », et qu'il avait préfacé, de façon très étrange, à moi. Et en sous-titre, un très beau sous-titre, « Pour se donner, il faut s'appartenir ». Et là, il disait des choses qui expliquent bien, au fond, la façon dont il concevait son engagement politique. « Notre but politique n'est un secret pour personne. C'est, après l'idéal religieux, celui pour lequel on a d'abord combattu. Nous ne nous arrêterons pas dans nos luttes incessantes que lorsque nous aurons atteint l'affranchissement complet de tous les hommes. Il ne suffit donc pas d'émanciper chaque nation, en particulier de la tutelle de ses rois. Il faut encore la libérer de la suprématie des autres nations. Il faut abolir ses limites, ses frontières, qui font des ennemis, d'hommes sympathiques pourtant. C'est à nous qu'est réservée la gloire splendide d'arracher toutes ces bornes impies et de baptiser les fleuves et les montagnes qui séparent deux patries, au nom de la patrie universelle. Notre cri de ralliement n'est plus « Vive la République !» La République est déjà un fait presque accompli, puisque voilà 60 ans déjà que nous la proclamons. Notre cri, c'est « Vive la République universelle !» Et là, on trouve le mot « d'universel » qui joue évidemment un rôle très très important, puisque vous verrez que la géographie était appelée « universelle » et qui est pour lui une chose particulièrement symbolique tout au long de sa vie. De quoi vivaient les deux frères? Ils vivaient, Élie était d'abord employé chez les frères Pereire, les banquiers Pereire, qui l'avaient tellement apprécié qu'ils voulaient en faire au fond leur fondé de pouvoir, enfin le personnage principal de leur entreprise, ce que Élie a rejeté avec une grande horreur immédiatement, en disant que jamais il ne voudrait se compromettre avec le capital qui se prétendait en plus social, etc. Enfin bref, il a absolument renoncé à poursuivre une carrière qui s'annonçait pourtant bien dans la banque, et il est devenu rédacteur dans une revue russe qui s'appelle le Dielo. De son côté, Élisée, tout de suite rentré d'Amérique, s'est mis à trouver, une possibilité d'écrire régulièrement dans la revue des Deux Mondes, où il a donné un nombre énorme d'articles, car en plus de ces 16 000 pages, je ne compte pas les milliers de pages d'articles donnés par Élisée Reclus à différentes revues, les Annales de Géographie, la Revue des Deux Mondes. Alors évidemment, son sujet, ça a été la Nouvelle-Grenade, la Sierra Nevada, enfin l'Amérique, etc. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'il y a eu la guerre de sécession, il a écrit toute une série d'articles qui ont été très remarqués à l'époque et qui ont eu même une certaine influence pour prendre parti dans la guerre de sécession pour les fédérés et contre les gens du Sud. Et ces articles ont été tellement remarqués que l'ambassade des États-Unis, enfin l'ambassade américaine, l'a contacté et voulait lui donner de l'argent en bons américains pour le remercier, pour l'acheter, bref. Élisée était absolument très choqué de cela. Il a rejeté cette offre. Mais il n'empêche que l'ambassade américaine a gardé un œil sur lui. Et ça a été utile par la suite, parce qu'en 70, quand il y a eu un peu d'agitation à faire à l'étranger pour lui, c'est les Américains qui s'en sont chargés, entre autres. Donc, Élisée vivait comme cela. Mais aussi, il a commencé la rédaction du premier ouvrage de ce qu'il appelle sa trilogie. Car ce que vous voyez là, ces 16 000 pages, c'est la nouvelle géographie universelle. Mais ça a été précédé par la Terre, qui comportait au minimum 2000 pages. Et ça a été suivi par encore un autre ouvrage de 4500 pages. Et le premier ouvrage, donc, qui s'appelait la Terre, on en a un exemplaire d'ailleurs dans la bibliothèque, était une description des phénomènes de la vie du globe et a eu immédiatement un très très grand succès, tout d'un coup, on s'apercevait qu'il y avait un écrivain qui élevait la géographie à la hauteur d'une littérature et qui considérait l'homme comme un phénomène terrestre. C'est Hachette qui l'a prise en main à ce moment-là. C'est assez important parce qu'à partir de ce moment-là, il devait être lié à Hachette. Non pas qu'Hachette l'ait tenu en contrat, enfin en quelque sorte de façon trop dure, mais enfin, il a été à ce moment-là, en quelque sorte, il est rentré dans une possibilité de vivre très librement, parce qu'il était sous contrat pratiquement, et il a pu au fond consacrer toute sa vie à son œuvre sans se poser de problèmes matériels, enfin trop graves. Bien sûr, il n'a pas toujours été dans une situation d'aisance très importante, mais malgré tout, tout ça, c'est Hachette, et c'est aussi toute une politique d'édition très novatrice à l'époque. Alors, après La Terre, qui avait donc eu ce grand succès, en 67, il a publié, et qu'il a fait connaître à l'étranger, il a publié L'Histoire d'un ruisseau. Cette fameuse histoire d'un ruisseau que nous avons cherché dans la bibliothèque, mais qu'un lecteur négligent a emporté et ne nous a pas rapporté, et que j'aurais bien voulu voir figurer sur cette table. Car c'était une façon très nouvelle d'aborder les phénomènes physiques. C'était une façon... Histoire d'un ruisseau, de passionner l'opinion pour le cours d'eau, la façon dont il évolue, la façon dont il se transforme. Et ça a été aussi le plus populaire de tous ses ouvrages, suivi par l'histoire d'une montagne. Ce sont les ouvrages qu'il a écrits avant que n'éclatent les événements de 70 et la Commune. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y aura un tournant dans sa vie. Et je vais vous parler un petit peu justement de la façon dont se sont passées les choses en 70. Élie et Élisée étaient bien entendu tous les deux extrêmement engagés dans le mouvement de l'époque, mais surtout, avant tout, très très patriotes et très terriblement choqués de voir la façon dont on capitulait et dont le gouvernement capitulait. Et donc, ils se sont immédiatement enrôlés dans les forces qui défendaient Paris, et tous les deux ont décidé de rester à Paris alors qu'ils faisaient sortir leur famille. Ils ont même repris espoir, ils ont même essayé de se présenter à des élections dans le sud-ouest, mais quand ils ont vu que les choses empiraient, ils ont décidé donc de rester à Paris et de se battre sur le terrain. On leur a fait beaucoup le reproche d'être des communards, entre guillemets, avec ce que ça peut sous-entendre d'excessif, de violent, de totalement sommaire parfois. Or, bien évidemment, vous le savez, ils ne pouvaient pas être comme cela. Ils étaient au contraire tellement soucieux d'essayer de tirer de toute cette horreur quelque chose de bon qu'ils ont essayé tous les deux de faire tout ce qu'ils pouvaient. Élie, à ce moment-là, a été nommé administrateur par la Commune, enfin directeur de la Bibliothèque nationale. Daniel, qui là peut nous le dire, elle a trouvé les traces de cela à la Bibliothèque nationale. Et il était heureux avant tout de pouvoir préserver la Bibliothèque nationale du pillage, non pas, dit-il, des ouvriers parisiens qui sont trop fiers d'avoir une telle bibliothèque, mais plutôt des Versaillais qui n'auraient qu'une envie, c'est de la brûler. Enfin, ça, bien sûr, les deux frères étaient parfois très violents sur ce qu'ils attendaient de l'autre partie. Et Élisée, lui, s'est engagé dans les aérostatiers. Il avait écrit à Nadar, qui avait fondé ce groupe des aérostatiers. Je crois que je pourrais vous être utile, à l'avantage d'être plus lourd que l'air, je joins celui d'être géographe et un peu météorologiste, et en outre, j'ai de la volonté. Ça aussi, ça explique bien son caractère. Donc, il s'engage un peu dans le mouvement. Mais enfin, Élisée n'a pas eu le temps d'être très longtemps impliqué dans le déroulement de la Commune, car le 5 avril, il se fait prendre par les Versaillais au cours d'une sortie qui avait eu lieu à Châtillon. Élie, son frère, a écrit sur la Commune un ouvrage que je crois vraiment très très intéressant et très important, puisque au jour le jour, et c'est d'ailleurs bien le titre du livre, La Commune au jour le jour, il raconte son journal de toute cette époque. Cet ouvrage est aussi un ouvrage de la bibliothèque. Je vais vous lire rapidement peut-être la façon dont les choses se sont passées, parce que c'est en même temps assez pathétique, je trouve, de voir que ce pauvre Élisée Reclus a été comme ça pris par les Versaillais dans des circonstances tellement arbitraires. Le récit est fait par un capitaine qui le raconte aux frères. Le capitaine sous la production duquel je m'étais mis pour mon expédition, et qui n'a pas été plus loin que la place de la Concorde, m'a raconté les suites tragiques de l'affaire où mon frère fut prisonnier. L'ordre nous fut donné hier, à 4 heures du matin, de partir en éclaireur pour Châtillon, subito. Mais éclairer quoi? Aller où? Par quel chemin? Éclairer comment? Et à qui faire son rapport? Et des munitions? Ah, que d'exigence! Allez à Châtillon immédiatement, vous dit-on. Soit. On prit une route quelconque. Tant bien que mal, on arriva aux alentours de Châtillon. De ci, de là, on s'y promenait. Dès le jour, des gardes nationaux affamés et encore plus altérés se répandaient dans les guinguettes du voisinage et s'y attablaient. Quant aux infatigables, quant aux zélés, à leur aise, ils patrouillaient par les chemins. Je poste quelques hommes, vos deux frères parmi, dans un ancien trou de Prussiens, et combine mes rondes. Je ne suis pas longtemps sans flairer des Versaillais. Les hommes sortent bientôt de leur trou et courent derrière un de leurs sergents qui, apercevant un bout de drapeau rouge à travers les arbres, « Les camarades sont dans la redoute, là-bas, qui même me suivent, » dit-il. Déjà, les balles commencent à pleuvoir. Un de vos frères s'attarde à ramasser un blessé. car il avait les deux frères. Paul Reclus était venu rejoindre ses frères. Plusieurs bataillons, Versaillais, débusquent, et ils avancent au cri de « Vive la République !» Feinte ou non, les Parisiens le prennent au sérieux et s'insèrent, et ils répondent « Vive la République !» Et ils se laissent approcher, et ils mettent même la crosse en l'air. Quand les Versaillais sont presque à portée de baïonnette, les prétendus amis leur disent « Vive la République ! C'est bel et bien, mais rendez-vous !» Et nos Parisiens sont enveloppés par des forces quintuples ou décuples et essaient encore de résister, mais quelques minutes à peine, ils sont bousculés, renversés, tués, blessés ou prisonniers. La mêlée fut trop courte pour avoir été très sanglante, mais que sont devenus vos frères, ça je ne puis vous le dire. Et ensuite, il y a le récit qui est assez intéressant de la façon dont les prisonniers sont traités lorsqu'ils arrivent justement à Versailles. Ces hommes avaient les mains liées, et les gandins qui la veille n'eussent point osé les affronter, leur crachaient maintenant contre la bouche et les yeux, et les belles dames avec leurs ombrelles tapaient dans ces figures baignées d'une sueur d'angoisse. Un vieillard à cheveux blancs, on est infâme à tout âge, déchargeait des coups de canne sur les têtes nues, et on lui criait « Bravo, bravo !» L'ignoble picard, le boursicotier engraissé, a tripoté dans ses ignominies. Tout aussitôt, il a affiché et télégraphié. La cavalerie qui escortait les prisonniers a eu la plus grande peine à son entrée à Versailles à les protéger contre l'irritation populaire. Parmi eux était l'homme que j'aime, que j'estime et que je respecte le plus au monde. C'est Élie qui parle de son frère Élisée qui était donc entré dans ces conditions à Versailles. Et donc ce savant déjà, cet homme si notable à l'étranger et en France également bien sûr, s'est retrouvé prisonnier des Versaillais et est resté en prison pendant 11 mois et demi, car avant qu'il ne soit jugé, il s'est déroulé 11 mois et demi, pendant lesquels on l'a traîné de prison en prison, et il a fait 17 prisons. Donc je vous laisse imaginer tout de même la peine et l'endurance qu'il lui a fallu. Mais ce qui est remarquable, c'est le côté très pudique d'Élisée Reclus. Il n'a pratiquement, je crois, enfin, d'après tous les documents que j'ai pu consulter, jamais voulu parler de cela. Il a estimé qu'il ne fallait pas regarder en arrière. Quand c'était fini, c'était fini. Lorsqu'il a été jugé par le Conseil de guerre, on l'a condamné à être déporté en Nouvelle-Calédonie, comme la plupart des communards. Et oui, la Nouvelle-Calédonie apparaît dans le circuit. D'ailleurs, il est très intéressant que dans la partie qui touche la Nouvelle-Calédonie, il dit qu'à tout jamais, cette île sera frappée au fond de ce péché que d'avoir été obligée d'accueillir les communards et que ça ne lui portera pas bonheur. En gros, il dit ça. Ça m'a un peu impressionné. Il est donc condamné à la déportation. Son frère Élie, lui, avait eu le temps de fuir avant l'arrivée des Versaillais. Et enfin, du moins, avait pris les mesures nécessaires et avait déjà gagné la Suisse. À ce moment-là, il est évident qu'un certain nombre de gens se sont agités, notamment des savants anglais, notamment les Américains. Je dirais que ce ne sont pas les Français, évidemment, qui se sont agités pour lui, enfin, relativement peu. Car ils étaient très soucieux, à la Société de Géographie, de lui faire se renier lui-même, en quelque sorte, et d'obtenir de lui, au fond, un renoncement à ses engagements d'anarchiste qu'il proclamait, mais comme vous l'avez vu, il le proclamait pour des exigences morales. Il y a eu une pétition qui a été faite au gouvernement français, que les savants anglais ont envoyée, qui disait « Nous osons penser que la vie de cet homme n'appartient pas uniquement au pays qu'il vit venir au monde, mais aussi au monde entier. Et nous croyons que s'il était condamné au silence ou à languir loin de tout centre de civilisation, la France n'aurait pas fait autre chose que de se mutiler et que de diminuer sa légitime influence dans le monde. » Et finalement, l'un dans l'autre, toute cette agitation autour de lui, lui a permis d'obtenir que sa peine soit commuée en un bannissement, et ça lui a évité la déportation. Il a donc été banni et conduit à la frontière suisse, et c'est en 1872 donc qu'il arrive en Suisse, où son frère s'était déjà installé, et que va commencer toute une nouvelle partie de sa vie. Car il va passer une vingtaine d'années en Suisse et au cours de cette vingtaine d'années va commencer son grande œuvre qui est la Nouvelle Géographie Universelle. Entre-temps, il s'était remarié une seconde fois de la même façon, c'est-à-dire sa femme était morte Il s'était remarié une seconde fois et malheureusement, sa seconde femme est aussi morte en Suisse. Et il se remariera une troisième fois, toujours de la même façon, acharné. Enfin, je signale ça parce que c'est quand même quelque chose qui lui a fait une très mauvaise réputation. Et je crois que la réputation, quand on dit « Ah, Élie Reclus ou Élisée Reclus, c'est l'anarchiste, hein, etc. » Tout ça, c'est resté dans la mémoire. Comment s'est passée la décision de publier la Nouvelle Géographie Universelle ? Hachette, voyant le succès qu'avait eu la Terre, l'histoire d'un ruisseau, l'histoire d'une montagne, était en contact avec lui, justement, pour qu'une œuvre de ce type puisse être élaborée, mais pour que ça soit une œuvre publiée périodiquement, publiée comme une encyclopédie par fascicule. Donc la première idée de Hachette, c'était que toutes les semaines, il y aurait un fascicule qui paraîtrait et que le monde entier serait couvert comme cela. Et leur plan était d'une ambition extrême, 1000 semaines, un fascicule par semaine, fascicule de 16 pages, vendu tous les samedis. Et ça donne 16 000 pages à la fin. Car tous les deux ans, il y avait un rassemblement des fascicules et on publiait un volume. Il a fallu évidemment un grand temps de préparation à cela. Élisée Reclus, d'ailleurs, a été pendant assez longtemps sans savoir si Hachette signerait ou pas avec un accord avec lui. Mais finalement, ils ont signé l'accord en 72. Et bien qu'au départ, ils aient prévu de ne publier que 6 volumes, on est rapidement arrivé à 19 volumes, et au bout des 19 volumes, selon Élisée Reclus, c'était pas encore il n'avait fait que griffonner, et il n'avait pas encore dit le centième de ce qu'il voulait dire. C'est vous dire à quel point ce personnage était étonnant dans sa façon de pouvoir se jeter dans l'ouvrage de cette façon-là. Alors, je vous donne encore quelques indications sur la vie qu'il a menée en Suisse, et puis après ça, peut-être que je détaillerai un peu plus la façon dont il a conçu la Nouvelle Géographie Universelle, parce que je ne voudrais pas quand même être trop longue et vous rendre impatient. Alors, en Suisse, il n'a pas du tout abandonné l'engagement politique qu'il avait. Au contraire, de plus en plus, il est lié avec des socialistes émigrés qui étaient là, avec beaucoup de communards exilés qui se trouvaient à Genève, et d'ailleurs qu'on retrouve dans un autre livre de la bibliothèque, chaque fois que je le dis pour que vous donnez envie de lire les livres de la bibliothèque, qui est Philémon, Vieux de la Vieille, qui est un livre très intéressant, où d'ailleurs on le voit, entre autres communards, passer dans le livre comme un des personnages. Là, il s'est donc lié d'amitié avec Kropotkine. Et il s'est d'autant plus lié d'amitié avec lui que c'était un géographe comme lui. Et il continue tranquillement ses activités de propagande de l'idéal anarchiste. Et notamment, parallèlement à sa Nouvelle Géographie, il écrit toute une série d'articles dans le journal qui s'appelait Le Révolté et dont il s'est occupé lui-même lorsque Kropotkine était en prison. Ce journal deviendra d'ailleurs Les Temps Nouveaux où il participe. Je vous donne toutes les indications pour vous montrer quel personnage, finalement, toute une partie de sa vie se déroule de façon très très engagée dans toute son action politique, jusqu'au bout. Et je crois que ce n'était pas du tout la façon dont il a été présenté. Toujours on l'a présenté comme quelqu'un de dangereux, etc. C'était évidemment le contraire d'un homme dangereux. Voici les photos que vous avez devant lui, devant vous, le représentent, à 40 ans. Lors de la Commune, il a cette tête évidemment extrêmement à la fois dure, exigeante, malheureuse. Enfin, je ne sais pas, moi je trouve qu'il a un regard un peu malheureux. Puis ensuite, on voit bien que la vie va l'adoucir et il a un regard beaucoup plus apaisé finalement, quand il arrivera à la fin de sa vie. Mais c'était pour lui une chose très très importante. Et il écrit quelque chose de très étrange, c'est que pour lui, l'œuvre qu'il est en train de faire n'est pas son œuvre principale. Il dit « Ma vie est arrangée, non pour être utilisée directement à l'œuvre de rénovation sociale, qui était pour lui la chose la plus importante, finalement, mais pour être employée à des œuvres latérales, d'une importance minime. C'est à peine de la science ce à quoi je travaille. Et cependant, je n'ose dire que j'ai complètement tort de griffonner chaque année mon volume de banalité, plus ou moins convenablement écrite. Avoir un travail précis devant soi et le faire de son mieux, Cela contribue déjà à faire respecter la cause que l'on représente. Et au fond, c'est tout l'homme qu'on va retrouver là-dedans tout au cours de sa vie, c'est-à-dire un homme qui finalement avait deux vies, mais aussi occupé l'une que l'autre, aussi fantastiquement pleine d'ouvrages, de littérature, etc. Et c'est assez intéressant de voir cela. Ce qu'on peut signaler, bon alors, 20 ans d'une vie, ça ne se raconte pas comme ça, c'est donc une activité d'écrivain perpétuel, c'est aussi donc des liens permanents avec son frère qui était en Suisse en même temps que lui. Au moment où il aurait pu revenir en France parce qu'il y avait une amnistie qui avait été prononcée pour les communards, il a eu un très beau geste. D'abord, l'amnistie avait été prononcée pour certains communards, dont les plus illustres, dont lui. Et il a magnifiquement renvoyé tout cela à l'Assemblée en disant « je ne renonce à l'amnistie, je ne veux pas être amnistié tant que tous les communards de Nouvelle-Calédonie ne seront pas amnistiés. » Et il n'a accepté l'amnistie que quand tout le monde était amnistié. C'est vous donner quelques traits de son caractère. Il a donc refusé de rentrer en France tout de suite. Du reste, il était installé en Suisse et il était installé à écrire, donc il n'avait pas de raison tellement, finalement, à ce moment-là, de rentrer immédiatement en France. Il a, à ce moment-là, eu le mariage de ses deux filles, puisqu'il avait deux filles, Janie et Magali. Et ça doit être une des filles de celle-là qui doit être la petite fille dont vous parliez. Et le mariage de ces deux filles a eu lieu inévitablement dans le salon, devant toute la famille. Et ça a produit un certain effet, là je dois dire, sur la bourgeoisie suisse, qui est même allée jusqu'à demander qu'il soit expulsé, parce qu'elle trouvait totalement inadmissible qu'il se prenne, on ne savait pas s'il se prenait pour le curé ou pour le maire, mais en tout cas il usurpait quelque chose, ça les Suisses de la bourgeoisie locale en étaient sûrs et étaient très très choqués. Je vous mentionne ça parce que ça lui faisait tout de même une assez mauvaise réputation, ce genre de choses, d'autant plus que le mariage de ses deux filles ne pouvait pas passer inaperçu, avait lieu le même jour et que, bon, compte tenu de sa notoriété déjà à l'époque, il était inévitable que ça fasse un certain scandale.
Mais ils n'étaient pas protestants pratiquants.
Ah non, ils avaient abandonné, avec l'anarchisme, ils avaient abandonné depuis longtemps leur croyance. Ensuite, il revient à Paris vers l'année 1890, au fond, pratiquement à l'époque où il avait terminé sa rédaction. Et là, il commence de nouveau à penser à une autre œuvre. Mais il a eu, à ce moment-là, une certaine difficulté à se réintégrer au milieu français, même s'il était très, très notable. Il faut dire que la France étant ce qu'elle est, et elle l'est toujours d'ailleurs, il n'était pas reconnu comme quelqu'un qui soit susceptible d'enseigner à l'université. Il était considéré comme un moins que rien, finalement. Et c'est à ce moment-là que l'Université libre de Bruxelles lui a proposé de venir faire des cours de géographie comparée et l'a nommé agrégé des sciences, car évidemment, sa notoriété était reconnue à l'étranger et on le jugeait apte à enseigner à l'étranger, mais pas en France. Cependant, ses ennuis n'étaient pas terminés, car lui, comme son frère d'ailleurs, à ce moment-là, ont été impliqués totalement indirectement à cause de son neveu Paul, le fils de son frère Élie, Paul Reclus, celui qui d'ailleurs a écrit leur vie commune, qui au moment de l'attentat qui a eu lieu à la Chambre des députés, l'attentat de Vaillant, a été poursuivi. Je ne sais pas s'il était impliqué, s'il avait eu un rôle très actif. Toujours est-il qu'il a été obligé de fuir à Londres, et on a dit « encore les reclus ont frappé ». Et alors, les reclus ayant frappé, ils ont été obligés de considérer que ils étaient d'ailleurs carrément suivis par la police, tous les deux. Ils ont donc décidé, à ce moment-là, d'aller en Belgique et de s'installer à Bruxelles. Mais l'Université libre de Bruxelles n'en voulait plus, parce qu'ils ont dit « Oh là là, des terroristes, ce n'est pas possible ». Et ça a fait d'ailleurs une certaine dissension au sein de l'Université libre de Bruxelles, puisqu'ils se sont séparés en deux blocs, ceux qui étaient pour reclus, ceux qui étaient contre reclus. Il a donc été obligé de donner de façon libre au sein de l'université son cours de géographie comparée et finalement excédé avec son frère. Il a fondé l'Université Nouvelle. Il a donc été sur la fin de sa vie en train de diriger cette Université Nouvelle qui a eu qui a été un foyer intellectuel très important pendant plusieurs années, puisque de 1894 à la fin de la guerre de 14, ça a été un endroit où se sont retrouvés de nombreux étudiants étrangers, notamment d'Europe centrale, qui ne pouvaient pas avoir accès pour une raison quelconque à l'université belge, et qui s'y retrouvaient avec un enseignement qui était fait par des professeurs très engagés, mais qui professaient gratuitement, qui se donnaient ce luxe de faire passer leurs pensées dans le domaine du droit, de la philosophie, de la sociologie. Alors là commence toute une nouvelle période au cours de laquelle Élisée va faire le troisième pan de sa trilogie, qui va s'appeler, cette fois-ci, « L'homme et la terre ». Et ça lui prendra 10 ans. Il va préparer cette rédaction pendant 10 ans, et ça ne sera publié d'ailleurs qu'après sa mort, car il meurt en 1905, tout de suite après son frère Élie, qui est mort lui-même en 1904, et ça lui a fait un choc absolument énorme. La mort de son frère, pour lui, qu'il considérait, comme il dit, comme un autre moi-même, a été évidemment quelque chose qui ne pouvait pas finalement le laisser vivant lui-même. Il a fait quelque chose de très beau, il a écrit une biographie de son frère, si bien qu'il y a une biographie des reclus par le neveu Paul Reclus, et puis une biographie d'Élie Reclus par Élisée Reclus. Et ayant écrit cette biographie, il est mort, et sa dernière satisfaction, son dernier contentement, ça a été d'apprendre, juste le matin de sa mort, d'avoir les nouvelles de la révolte du cuirassé Potemkin. Et il est mort en recommandant que seul son neveu Paul Reclus, qu'il considérait comme son héritier spirituel, l'accompagne à sa tombe. Et là, il a été enterré à Ixelles, en Belgique, où il vivait donc. Et il a été enterré non pas avec sa famille, avec sa femme, etc., mais il a été enterré avec Élie, son frère, car c'était le point final, finalement, de leur vie commune. Voici donc cette première partie. Je m'excuse d'avoir été un peu longue, c'était un peu pour vous montrer combien ces personnages ont été attachants et combien ils ont été prodigieusement engagés dans toute cette période. Et maintenant, je vais vous donner, aussi brièvement que possible, quelques données sur la façon dont la nouvelle géographie universelle est conçue et sur la façon dont ça a été organisé. Malte Brun a été d'ailleurs l'un des fondateurs de la société de géographie et était évidemment celui qui faisait autorité en France. Mais je crois que ça a été une œuvre évidemment extrêmement nouvelle dans sa conception, qui d'ailleurs a été écrite elle-même aussi en 20 ans, entre 1810 et 1829. Élisée Reclus, lui, a écrit sa nouvelle géographie d'une façon totalement différente. Il a d'abord conçu un plan qui avait été fait en commun avec Émile Templier à Hachette, qui était son correspondant. Et ce plan prévoyait un découpage du monde, ensuite dans chaque volume, une importance accordée à chaque pays, en fonction d'ailleurs de la population du pays, semble-t-il. Et il a conçu surtout d'aborder la géographie, non plus comme quelque chose de froid, de sec, de rigide, mais comme quelque chose d'aussi complet que possible, comme quelque chose d'un peu émotionnel, comme un regard porté sur, au fond, l'histoire de l'homme. Il a publié donc, au cours de ses 20 ans, des fascicules qui se publiaient toutes les semaines. Le premier tirage a été de 20 000 exemplaires, et ça s'est poursuivi pendant un certain temps. Je ne connais pas assez l'histoire de l'édition, mais je trouve que c'est assez important, 20 000 exemplaires à l'époque, compte tenu du fait que c'était une France de 36 millions d'habitants, et que la France n'était pas particulièrement instruite quand même à l'époque. Les volumes ensuite sortaient pratiquement tous les 2 ans. Le premier volume était en sortie en 1876. C'est d'ailleurs la première édition que nous avons à la bibliothèque. Et je crois que toutes les autres éditions doivent être plus ou moins les éditions, les premières éditions de chaque volume. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils sont divers, pas reliés de la même façon. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu dommage ça. La publication du premier volume a eu lieu en 1876. Le prix était de 30 francs, ce qui était important à l'époque, puisque il voulait atteindre un lectorat populaire, mais là il n'a pas dû pouvoir l'atteindre. Quoique, je suppose que les bibliothèques de ce style l'achetaient, on le voit bien. Alors, il serait peut-être intéressant de savoir, au fond, comment il travaillait. Il travaillait de façon tout à fait constante, permanente. Courbet, qui le connaissait bien, le compare à un tailleur qui se lève à l'aube et qui ne rangera son ouvrage que lorsque le soleil sera couché. Et effectivement, même s'il recevait des gens chez lui, il quittait à un moment donné, il repartait son travail, il devait travailler, je ne sais pas, 12-14 heures par jour. Il écrivait partout, il écrivait dans les gares, il écrivait dans les salles de gare, il écrivait sur les bras des fauteuils, il écrivait partout où il y avait un moment de libre. Et attention, il écrivait toujours au crayon. Enfin, je dis ça parce qu'il faut quand même s'imaginer quand même qu'il a tout écrit entièrement, un manuscrit entièrement écrit de sa main. Car à l'époque, il y avait quand même déjà des pratiques de secrétariat. Il aurait pu avoir un secrétaire qui aurait écrit, qui aurait synthétisé, qui l'aurait assisté dans la rédaction. Non, il écrivait d'un seul jet pratiquement sans rature. Une très très belle langue d'ailleurs. Et il écrivait constamment. Et il a tout écrit au crayon. Parce qu'à cette époque-là, d'ailleurs, il n'y avait pas de stylo. Donc il avait une espèce de cartouchière comme ça où il mettait ses crayons. Puis partout où il se trimballait, il écrivait. Enfin, ça le premier. Et toute sa vie, comme ça, il a écrit, il travaillait sans relâche, d'un seul jet. Le titre, il est peut-être intéressant de savoir, justement, parce qu'on retrouve Élisée Reclus dans le titre, toute la discussion sur le titre. Émile Templier s'est beaucoup bagarré avec lui sur ce titre. Lui, d'abord, Élisée Reclus voulait que ça s'appelle « La terre et l'homme ». Émile Templier avait très très peur d'Élisée Reclus au départ, et d'ailleurs il l'a censuré, enfin ils s'étaient entendus, ils avaient un certain contrat. Élisée Reclus, qui était considéré donc comme un dangereux anarchiste, était supposé quand même ne pas écrire ce qu'il pensait des régimes politiques qu'il décrivait dans les livres, et d'ailleurs il a été parfaitement neutre et je crois tout à fait habile dans sa façon de présenter les choses. Mais Templier ne voulait pas que ça s'appelle « La Terre ». Lui, Élisée Reclus, voulait que ça s'appelle la Terre. Et les titres qu'on lui proposait, c'était les cinq parties du monde, le monde où nous vivons, le monde terrestre, le monde et ses peuples, le monde et les hommes. Élisée Reclus a tenu bon, il ne voulait pas du monde. Il voulait la Terre. Alors, finalement, ils se sont entendus sur Nouvelle Géographie Universelle, puisqu'il faisait allusion au précis de Géographie Universelle, un sous-titre, la Terre et les hommes, mais pas et l'homme. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a été une obsession pour lui, et probablement il en a beaucoup voulu à Hachette d'avoir été obligé de se censurer comme cela. Et ensuite, quand il a abordé le troisième pan de la trilogie, c'est-à-dire l'homme et la terre, il a rompu avec Hachette, de façon assez élégante, mais enfin il leur a dit qu'il ne voulait pas être publié par eux, et il voulait que ça s'appelle bien l'homme et la terre, et il voulait avoir son titre. Et il leur a expliqué qu'il ne pouvait pas, compte tenu du sujet, s'auto-censurer, et il voulait dire ce qu'il avait envie de dire sur l'homme. La présentation de tous les volumes est systématique. Chaque volume renferme une présentation. Il y a des régions qui sont extraordinairement développées, évidemment. L'Europe, je ne sais pas, j'avais pensé les mettre en tas, mais ça c'était assez difficile. L'Europe tient évidemment une place énorme. L'Afrique, une place relativement réduite, mais il ne faut pas oublier que quand il a commencé à écrire, il y avait encore des tas de terres inconnues, et il le dira, enfin je vais vous lire tout à l'heure la fin de l'ouvrage, et il dit que tout au cours de ces 20 années, la géographie a progressé, ne serait-ce que par la découverte d'un certain nombre de pays. L'Amérique est très étendue, et les États-Unis ont un volume pour eux seuls, et en cela sont comparables à la France, qui elle-même a un volume pour elle seule. Car c'était un patriote tout de même qui aimait trop la France pour ne pas lui consacrer un volume. Vous avez là donc devant vous les 19 volumes. Vous avez donc l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie avec un seul tome, dans lequel pêle-mêle on trouve les îles de l'océan Indien, la Sulane, les Philippines, la Micronésie, la Nouvelle-Guinée, la Mélanésie, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, la Polynésie. Je ne vous lis pas tous l'énoncé des titres. Je crois que le mieux serait que vous reveniez, que vous ouvriez les ouvrages et que vous vous aperceviez de l'extraordinaire méthode de travail et l'extraordinaire conception de chaque volume. Chaque volume comportait un très grand nombre de cartes. Il avait fait une innovation, notamment en introduisant des plans de ville. Et il est assez remarquable de voir des plans de ville de toutes les grandes villes européennes, Stockholm, Londres, ou Moscou, ou Minsk, ou que sais-je, toutes sortes de villes, vous trouverez les plans en l'état au XIXe siècle. Et il avait bien sûr aussi un très grand nombre de cartes qui accompagnaient chaque fascicule. Au total, je crois qu'il y a quelque chose comme 1 millier de gravures et puis 3 000 cartes. Enfin, quelque chose de très très impressionnant comme nombre d'illustrations. Les gravures, on en parlait tout à l'heure en feuilletant les volumes, les gravures, enfin les illustrations, sont particulièrement intéressantes parce que la plupart sont faites d'après des photographies. Et là aussi, on a toute une idée de la vision de l'époque et de la très grande couverture géographique des sites, d'un certain nombre de sites, d'un certain nombre de villes, déjà en photographie, et aussi du stock que Hachette pouvait avoir, car Hachette avait tout un stock de cartes, de photos, etc. Et c'est là-dedans que puisait Élisée Reclus. Mais outre son travail de rédaction, justement, un énorme travail consistait à choisir les cartes, à les sélectionner et à les faire redessiner par son cartographe qui s'appelait Charles Perron. Car il a fait tout cela tout seul. Il n'était aidé que par un cartographe, qui était un ancien communard, et par un assistant qui s'est succédé. Ça a été successivement Léon Metchnikov, qui était un russe, qui l'aidait pour certaines traductions russes. Ensuite, Gustave Le Français, qui était un ancien communard. Ensuite, Sansine. Il a eu 3-4 assistants qui se sont succédés pendant ces 20 ans, pas plus. Il a travaillé en gros avec 3-4 personnes. Et la maison Hachette, bien sûr, qui assurait une certaine logistique. Mais il a pratiquement, malgré tout, tout fait lui-même, car ses assistants ne faisaient que relire les épreuves. Lui, il écrivait tout, il cherchait tout. Bien entendu, il faisait contrôler, vérifier. À la fin de chaque volume, il y a une note de remerciement pour tous les gens qui ont vérifié un certain nombre de détails, comme ça se fait toujours. Mais l'ensemble du travail était entièrement fait par lui. Et c'est une œuvre fabuleuse, parce que je crois que ce serait absolument impossible de refaire une telle œuvre à l'heure actuelle. Il y a en quelque sorte, si vous voulez, un plan systématique, bien sûr, qui a été, suivi pour chaque volume, une introduction historique, la répartition des ethnies, c'était très complet. Une étymologie des lieux, une description physique, forme du pays, hydrographie, température, une géographie humaine, des données commerciales et politiques qui sont intéressantes. C'est là aussi où c'est très intéressant, parce qu'on trouve des statistiques très complète, je ne sais pas combien il y a d'étudiants à l'université russe de l'époque ou l'université suédoise. Et je crois que quiconque fait des recherches ne peut pas se passer de mettre, enfin des recherches d'un certain type, ne peut pas se passer d'aller consulter à un moment donné Élisée Reclus. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'a pas travaillé du tout, comment dire, en allant systématiquement voyager dans tous les coins du monde. Il a travaillé beaucoup, beaucoup, de façon majoritaire en bibliothèque, car c'était quand même pas, on ne peut pas dire que le fait qu'il ait été en Amérique à 20 ans ait suffi à lui faire écrire cet énorme tome sur les États-Unis. Non, il travaillait en bibliothèque, il était très 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 systématique, il accumulait les fiches, je crois qu'il devait avoir un automatisme de la référence, et il a donc parcouru toutes les bibliothèques européennes. Il a fait quelques voyages personnels, mais pas énormément. Il est allé en Égypte. Il est allé en Tunisie, en Algérie, où une de ses filles mariées était installée. Il est allé au Maroc. Et puis, il est retourné en Amérique. Il est retourné aussi un peu en Amérique du Sud. Mais il n'a jamais mis les pieds en Russie. Il n'est pas allé en Asie. Et finalement, il n'a mis évidemment les pieds dans aucune des îles de l'Océanie. Donc, il a fait vraiment cette description à partir d'une synthèse personnelle et d'une émotion personnelle qu'il éprouvait à lire les documents. Que vous dire encore, peut-être qu'il est intéressant de voir quelques données peut-être par rapport à la façon dont il vivait, la façon dont Hachette le traitait. Hachette au début lui donnait 600 francs par mois pendant toute la période de préparation, plus des droits d'auteur au moment où les fascicules sortaient. Mais selon une évaluation de l'historien américain, il a quand même été excessivement bien traité par Hachette et au total il aurait eu environ sur toute la période 500 000 de francs. Et ce qui lui permettait d'avoir un revenu d'environ 16 000 francs par an. Je crois que c'est assez important de se rendre compte que, effectivement, ça lui a procuré probablement des revenus substantiels sur la fin de sa vie, mais je crois que tous ces revenus sont passés dans des aides à des mouvements socialistes, anarchistes, des camarades, tout simplement, de la camaraderie. Maintenant, on peut se demander aussi ce qui sont devenus ces manuscrits, car j'aurais bien aimé avoir des manuscrits, mais je ne crois pas que vous les ayez à la bibliothèque. Hein ? Vous avez les lettres, vous n'avez pas les manuscrits de l'ouvrage. Les manuscrits ont été répartis entre Genève et Neufchâtel, parce que quand il a quitté la Suisse, il les a remis aux bibliothèques suisses. Donc c'est là qu'on peut les consulter, si un jour on peut les consulter. Ainsi donc, voilà ce que nous avons devant nous, ces 27 volumes. Mais au total, il a écrit dans sa vie beaucoup plus que cela, puisqu'il a écrit des articles, il a écrit La Terre, l'histoire d'un ruisseau, sans compter d'innombrables autres œuvres mineures qu'il considérait comme mineures. Il est intéressant de noter aussi, peut-être, que on a réessayé au XXe siècle de faire une encyclopédie de cette sorte, enfin une autre géographie universelle, qui a été publiée en 15 volumes, elle, de 1927 en 1946, mais qui a exigé 15 collaborateurs. Et c'est là qu'on prend la dimension, finalement, de cette œuvre gigantesque, l'œuvre d'un seul homme. 15 collaborateurs, et en quelque sorte, il a marqué, avec cette œuvre gigantesque, la fin des géographies universelles, car à l'heure actuelle, aucun éditeur ne pourrait se relancer dans quelque chose comme ça, quand on voit le travail que ça lui demandait, des deux côtés d'ailleurs. L'éditeur achète tout aussi bien que l'auteur. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. 20 ans après avoir commencé cela, Élisée Reclus regrettait une seule chose, c'est qu'il n'est pas encore 20 ans pour réécrire la même chose, puisque comme il disait, il n'avait dit que le centième de ce qu'il voulait, mais surtout, il regrettait beaucoup le découpage, parce que le monde avait changé, et que finalement, ce découpage ne lui plaisait pas énormément, il n'en était pas satisfait, il avait l'impression, il a fait ses confidences à un géographe suisse, il avait l'impression de s'être fait un peu avoir en supportant un découpage comme ça, qui lui semblait trop européocentriste, mais enfin, il en était très conscient, il en était assez malheureux. Je voudrais vous lire peut-être le dernier, ce qu'il a intitulé son dernier mot, parce que je crois que c'est assez intéressant, c'est dans le volume 19. Le volume 19 qui est l'Amérique du Sud, qui est l'Amérique du Sud, l'Amazonie et la Plata, où vous trouvez une très belle gravure de lui qui a illustré le dernier volume. Et où il a un air évidemment qui n'est pas du tout le même que celui de ses 40 ans quand il était si persécuté. Je vous le lis parce que je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce volume se termine sur un dernier mot, une sorte de conclusion de son œuvre, qui a à peine 3 pages au bout des 16 000 pages. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a une espèce de grande sobriété là-dedans. Qu'il termine comme ça, avec beaucoup de concision. En achevant ce long travail commencé au temps de ma jeunesse, je me félicite de la chance heureuse qui m'a permis de ne pas manquer une seule fois, dans le cours d'une vie pourtant mouvementée, aux engagements de publication régulière que j'avais prises envers mes lecteurs. Je reconnais toutefois que ma bonne volonté et mon labeur consciencieux n'auraient pas suffi dans cette entreprise si des collaborateurs dévoués ne m'avaient constamment soutenu de leurs recherches et de leurs conseils. Cette période de 20 années, longue relativement à la vie d'un homme, n'est qu'un rien pour la Terre, mais qu'elle a été bien remplie. Que de découvertes et d'explorations se sont succédées, ajoutant à nos connaissances premières et nous forçant à modifier notre exposition du monde. Le mystère des pôles est encore inconnu, mais Nansen a su accomplir son merveilleux voyage de rive à rive à travers le glacier continu du Groenland. Dans l'intérieur de l'Asie, le sanctuaire éternel où réside le divin Dalai Lama reste depuis la visite de Hué inabordable aux profanes européens, mais le cercle des itinéraires se resserre chaque année autour du lieu sacré. Dans le continent noir, le problème du Nil, ceux du Zambèze, du Congo, du Niger sont résolus. Partout, le réseau des voyages couvre la planète comme un filet aux mailles rétrécies. La carte des profondeurs marines avec leurs températures, leurs organismes vivants, leurs dépôts géologiques se poursuit et se complète comme celle des continents. Par des connaissances nouvelles, l'homme se transforme, pour ainsi dire, renaissant chaque jour. L'homme a ses lois comme la terre. Vue de haut et de loin, la diversité des traits qui s'entremêlent à la surface du globe, crêtes et vallées, serpentines des eaux, lignes des rivages, sommets et profondeurs, roches superposées, présente une image qui n'est pas le chaos, mais au contraire, pour celui qui comprend, un ensemble merveilleux de rythmes et de beauté. L'homme qui contemple et scrute cet univers assiste à l'œuvre immense de la création incessante, qui commence toujours et ne finit jamais, et participant lui-même par l'ampleur de la compréhension à l'éternité des choses, il peut arriver, comme Newton, comme Darwin, à les résumer d'un mot. Et si la Terre paraît logique et simple dans l'infinie complexité de ses formes, l'humanité qui l'habite Ne serait-elle, comme on le dit souvent, qu'une masse aveugle et chaotique, s'agitant au hasard, sans but, sans idéal réalisable, sans la conscience de son destin ? Les migrations en sens divers, les peuplements et les exodes, la croissance et la décroissance des nations, les civilisations et les décadences, la formation et le déplacement des centres vitaux, ne sont-ils, comme il semble au premier abord, que des faits, et encore des faits, juxtaposés dans le temps, sans qu'un rythme en règle les oscillations infinies et leur donne un sens général exprimable par une loi ? C'est là ce qu'il importe de savoir. Le développement de l'homme est-il en harmonie parfaite avec les lois de la Terre ? Comment change-t-il sous les mille influences du milieu changement ? Peut-être le peu que nous savons déjà nous permettra de voir plus avant dans les ténèbres de l'avenir et d'assister aux événements qui ne sont pas encore. Peut-être arriverons-nous à contempler par la pensée le spectacle de l'histoire humaine jusque par-delà les temps mauvais de la lutte et de l'ignorance, et y retrouverons-nous le tableau de grandeur et de beauté que nous présente déjà la Terre. C'est là ce que je voudrais étudier, dans la mesure de mes forces, du million de faits que j'ai dû énumérer de chapitre en chapitre, je voudrais extraire une idée générale et justifier ainsi, en un court volume écrit à loisir, la longue série de livres sans conclusion apparente que je viens de terminer. Et cela le tourmentait beaucoup de ne pas avoir de conclusion véritable. Si bien que, à la fin de la géographie universelle, il s'est donc remis à l'ouvrage, comme je vous disais, pour écrire La Terre et l'Homme, 4500 pages, et toute sa vie, somme toute, a été consacrée à ces deux, à l'homme et à la Terre. Et de manière significative, le dernier des ouvrages qu'il aurait voulu écrire, qui a été aussi publié après sa mort, c'était un ouvrage sur les volcans, car les volcans le tourmentaient beaucoup, comme si au fond, tout au long de sa vie, ce désir d'explosion est resté en lui et aura bouillonné jusqu'à la dernière minute. Dernière minute d'ailleurs, où il avait appris cette nouvelle de la révolte du cuirassé Potemkin en disant « La révolution, enfin la révolution est venue ». On ne peut pas, à partir d'une description trop sommaire d'Élisée Reclus, évidemment pénétrer la complexité de cet homme, mais je crois que ce qu'il est important de réaliser, c'est à quel point il a été complet et à quel point il a su unifier finalement ces deux aspects qu'il avait en lui. Et je crois qu'il serait très important qu'on diffuse de lui une image attachante et qu'on revivifie un peu l'intérêt qu'on peut avoir pour lui. Je m'excuse d'avoir été un peu longue et je voudrais qu'à la suite de cela, tout le monde emporte un volume. Et j'espère que moi-même, je trouverai un jour une collection complète à me procurer.
L'aspect politique, l'aspect de l'homme anarchiste, à mon avis, plus vis-à-vis de l'Europe, qui a gagné pas pour lui, il l'a dit à un moment.
Ah, il l'a dit, c'est une œuvre latérale.
C'est 19, mais sa vie personnelle, c'est sa vie d'anarchiste.
Bien sûr. Oui, il disait, suis-je un géographe ou un anarchiste ? Je suis un anarchiste avant tout.
Oui, mais pas socialiste, il avait souvent utilisé, il s'est toujours voulu de l'anarchie pure, de la vraie anarchie, l'anarchie riche, l'anarchie qu'on le dit. Et pas de socialisme. Hein.
Non, mais il avait été en contact, évidemment. Voilà, il serait peut-être intéressant de savoir physiquement, enfin, là, on a un portrait de sa face, hein, mais vous le voilà en pied. Enfin, c'est une photo que j'ai photocopiée dans un livre. Il était assez petit, il mesurait 1m65. Et le voilà donc en pied, si ça vous intéresse, quand il était à Bruxelles déjà. Donc,
Vous trouvez que c'est vraiment lisible, parce que j'ai voulu acheter comme ça par hasard, moi ça m'ennuie.
C'est extraordinaire.
C'est pour ça que dans la collection, la découverte...
Même, je dirais que pour appuyer ce que vous dites, ce qui m'a le plus frappé, c'est que dans sa correspondance, il ne fait jamais allusion à la géographie. Jamais, jamais, jamais. Il disait bien que c'était une œuvre inférieure. Au fond, à travers la géographie, de temps en temps, il pouvait essayer de faire passer quelque chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir les jugements qu'il porte. D'un air, mine de rien et mine de pas y toucher. Mais pour lui, ça a été sûrement un supplice d'écrire aussi sans pouvoir porter un jugement.
Là, c'est de description. Je veux dire que quand c'est un voyage, c'est plus passionnant. Là, c'est de la description.
Mais c'est des descriptions à partir de voyages.
Il y a 100 ans, là, le dernier, 1971, le voyage en Nouvelle-Calédonie, mais il y a les
péripéties. Ça, c'est vrai.
J'ai voulu en lire.
Il y a peut-être quelque chose qui peut vous amuser, que j'ai oublié de. Enfin, que je ne vous ai pas signalé. C'est qu'à un moment donné, Élisée Reclus a eu l'idée de faire un globe terrestre, justement, pour célébrer son amour de la Terre. Et cette histoire a été fantastique, car il imaginait qu'on devrait faire pour l'exposition universelle de 1900 à Paris un globe terrestre au 1/100 millième, ou au 1/500 millième. Mais enfin, de toute façon, je crois que ça faisait un globe qui, de toute façon, aurait eu 130 mètres de hauteur, je ne sais pas combien de mètres de diamètre, parce que je ne suis pas capable de calculer ça, mais sur lequel toute la surface de la Terre serait représentée. Il voulait même qu'on puisse voir la hauteur d'une colline comme celle du Trocadéro. Et contre ce globe circulerait un tramway. Et ça permettrait justement, c'est là où on retrouve un peu la liaison avec la Terre et la géographie, ça permettrait aux gens d'acquérir l'amour du monde, l'amour de la Terre, là. Et c'est assez curieux. Et alors je vous passe, parce que je l'ai photocopié aussi dans le livre, l'extraordinaire dessin. On imagine qu'il voulait mettre ça à place de l'Alma. Alors on peut s'imaginer qu'après tout, place de l'Alma, on aurait pu avoir ce globe un jour. Non, tout le monde l'a traité de complètement cinglé. Et puis alors, il faut dire qu'il n'a jamais été bien avec les autorités françaises, donc personne ne l'a aidé. Élie, dans le bouquin d'Élie, ce qu'il est devenu après la Commune, mais il est parti en Suisse.
Paul.
Ah oui, Paul Reclus. Ah, le. Quand ils ont. Oui, effectivement. Paul, il dit pas, c'est ça. Et il ne parle pas de Paul. C'est très curieux, car ils avaient une tendance dans la famille à s'oublier les uns les autres. Bon, alors Paul, je crois, je ne sais pas s'il avait déjà fini sa médecine ou pas à ce moment-là, mais il a. Il a. Non, non, il n'a pas été tué. Il a, bien sûr. Non, je crois qu'il a dû regagner. Lui, je ne crois pas qu'il ait été arrêté. Je crois qu'il a regagné tranquillement. Non. Mais l'autre Paul Reclus, le neveu. Oui, non, je sais bien. Mais lui non plus, il n'y fait plus jamais allusion.